Il est 7h42 en temps universel, RFI matin se poursuit et se termine dans 18 minutes. On fera le point dans le journal sur l'élection présidentielle fixée au 12 avril au Gabon. L'annonce a été faite mercredi et vous entendrez les réactions politiques à Libreville au micro d'Yves Laurent Goma. À suivre d'ici là notamment Afrique Économie, quel avenir pour la politique alimentaire du continent africain et tout de suite les sports. Avec vous, Florence Valmet, les États-Unis s'invitent à Paris depuis quelques jours et hier s'est tenu le premier des deux matchs de basket délocalisés cette semaine par la NBA dans la capitale française.
Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont imposé leur rythme face aux Indiana Pacers, un succès 140 à 110. Wemby qui a livré une prestation de haut vol. En face, Pascal Siakam et ses coéquipiers ont semblé impuissants. Au micro de Victor Missistrano, le Camerounais regrette le manque de combativité de son équipe.
On s'est pas battu du tout. C'était facile pour eux. On n'a pas eu l'énergie, vraiment. C'est pas juste battu, genre, c'était trop facile pour eux. Tout le match, ils faisaient ce qu'ils voulaient. On a manqué des tirs, donc ça n'a pas aidé. S'ils marquent, je sais pas combien de points, 140 points, c'est... On peut jamais gagner, donc on doit pouvoir jouer en défense mieux et je pense qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Mais bon, c'est pour ça que t'as un deuxième match, donc c'est ça, la NBA, ça arrive. Faut juste oublier ça, corriger ce qu'on a à corriger, essayer de faire mieux le match prochain.
Et le deuxième match a lieu dès demain samedi pour la revanche entre les Spurs et les Pacers, toujours à Paris. Le match a lieu à 17h TU.
En football, la 19e journée de Ligue 1 débute ce vendredi avec un duel de seconde partie de classement.
Auxerre reçoit le barragiste Saint-Étienne. 11e au classement, les Auxerrois vont tenter de se relancer. Ils n'ont plus gagné depuis fin novembre et n'ont pas été aidés par leur buteur malien, Lassine Sinayoko. En manque de réussite, avec seulement 2 buts inscrits depuis le début de la saison. Mais il tient à raviver sa flamme pour un club qui lui est cher et où il a prolongé jusqu'en 2026, Babacar Diarra.
Lassine Sinayoko a le logo de la JOCR griffé sur la peau depuis 2017. Une fidélité entamée en catégorie de jeunes est rare dans le football contemporain.
Ce club-là, il m'a fait confiance. C'est les seuls qui sont venus me chercher, entre guillemets. Je me dois de leur rendre l'appareil. Et le fait que je prolonge à chaque fois, bah, c'est comme leur rendre l'appareil, essayer de leur rendre l'appareil au maximum.
Retrouver de l'efficacité serait une belle manière de rendre à son club de cœur en panne de résultats. Auxerre cherche une victoire depuis novembre. Moi, des 2 uniques buts inscrits par l'Aigle du Mali cette saison.
Si je mets le doute dans ma tête, bah, c'est là que les problèmes commencent. Toute l'équipe a confiance en moi, tout le club a confiance en moi, et moi-même, j'ai confiance en moi. Donc, à partir de là, le doute, il n'est pas permis.
Dans le top 4 des équipes de Ligue 1 à la maison, la GIA de Sinayoko reçoit Saint-Étienne avec son 12e homme, le stade de l'Abbé Deschamps.
Je vois aucune personne douter, donc... Quand tu ressens ça, malgré l'enchaînement de défaites, bah, tu te dis que tu tiens le bon bout.
Un état d'esprit positif, indispensable dans cette mission maintien.
Auxerre Saint-Etienne, coup d'envoi à 19h45 TU.
Et puis, toujours en foot, Manchester City a officialisé hier l'arrivée d'Omar Marmouche.
L'attaquant égyptien quitte l'Eintracht Francfort et s'est engagé avec City pour 4 ans et demi jusqu'en 2029. Le club mancunien aurait déboursé entre 70 et 80 millions d'euros.
Enfin, le mondial masculin de handball, 2e match du tour principal. L'Égypte et le Cap-Vert jouent à Zagreb.
L'Égypte, 4e de son groupe, peut toujours se qualifier pour les quarts de finale de la compétition et affronte la Slovénie. Le match est à suivre à 17h TU. Le Cap-Vert, en revanche, joue sa survie. Les Cap-Verdiens, derniers de ce même groupe, sont au bord de l'élimination. Ils retrouvent l'Argentine, mal en point également et juste devant au classement. Le match est à suivre dès 14h30 TU.
Merci Florence Valmet. Et dans notre reportage Afrique ce matin, le début d'une série en 3 épisodes en Centrafrique pour vous donner un aperçu du quotidien à Bossongo, village situé à 50 km au sud-ouest de Bangui, la capitale. Ici, la plupart des agriculteurs et des ouvriers n'ont pas la possibilité de se rendre dans les villes pour acheter du matériel moderne de travail. Une situation qui les oblige à se tourner vers les artisans locaux pour s'offrir du matériel agricole, de chasse ou de pêche. À Bossongo, ces outils sont fabriqués avec de la matière première recyclée sur place et Rolf Steff Domialeux nous emmène à la rencontre d'un groupe de forgerons.
En cette matinée de janvier, Hervé Elie est en pleine activité dans son atelier. Ici, il fait chaud et l'ambiance est cadencée par des coups de marteau et de masse. Vêtu de combinaisons bleues, de bottes rouges et de gants, ce forgeron de 46 ans est en train de fondre du métal avec un feu à 90 degrés. un savoir-faire transmis au sein de sa famille.
J'ai pris la suite de mon père dans cet atelier. Il m'a appris le métier dès que j'ai eu 8 ans. Ici, nous fabriquons des arrosoirs, des haches, des couteaux et plein d'autres choses. Nous travaillons avec des objets recyclés. Il s'agit de carrosseries de voitures et de vieilles tôles.
C'est un métier difficile qui exige de l'endurance, la technique et la patience. À cause de la chaleur, Hervé Eli enlève la chemise de sa combinaison pour mieux préparer le four.
Dans ce magasin, nous stockons le bois de chauffe, notre unique source d'énergie. Une fois que le métal est bien chaud, on peut facilement lui donner la forme que l'on souhaite à l'aide de marteaux ou de masse. Nous avons appris ce métier de nos parents et nous le transmettrons à nos enfants.
Assis sur des bancs à l'entrée de la petite usine, certains clients sont venus acheter du matériel, mais d'autres sont là pour réparer leurs outils endommagés. Marc Gonedi est l'un d'eux.
Les produits qu'ils vendent ici sont abordables. Ça varie entre 2500 et 15 000 francs CFA en fonction du matériel demandé et de la matière première utilisée. Je suis cultivateur. J'ai besoin de tous ces outils pour travailler la terre.
Torse nu, marteau en main, Gilles Fedanga n'a pas eu la chance de faire de grandes études. Âgé de 19 ans, il utilise son talent de forgeron pour gagner sa vie.
Nous avons un coffre-fort pour conserver nos recettes. À la fin du mois, chacun touche un salaire en fonction du marché. Notre principale difficulté, c'est l'accès aux matières premières. Parfois, nous avons des commandes de clients, mais c'est difficile de trouver les tôles, le métal et les fers appropriés. Même si ça nous bloque, on ne compte pas baisser les bras, car seul le travail libère l'homme. Avec l'aide de Dieu, ça ira.
Même si en République centrafricaine, ce métier se pratique de façon artisanale, ces jeunes sont remplis d'ambition. Ils souhaitent installer dans les prochaines années une usine de fabrication de matériel moderne. Rolf Esteve Domiale, Bangui, RFI.
Reportage en Centrafrique à retrouver sur RFI.fr.
RFI à Kigali, 91.9 FM. Kampala, 93.7 FM.
Quel avenir pour la politique alimentaire du continent africain? C'était la question posée pendant le sommet de l'Union africaine en Ouganda du 9 au 12 janvier après la déclaration de Malabo qui fixait les priorités de ces 10 dernières années pour combattre l'insécurité alimentaire. La déclaration de Kampala adoptée ce mois-ci par les États membres définit une nouvelle feuille de route pour la prochaine décennie. Une nouvelle période discutée quelques mois plus tôt pendant le Forum africain des systèmes alimentaires à Kigali. C'est notre dossier. Afrique Économie avec Lucie Mouillot.
Contrairement à la déclaration de Malabo centrée sur le secteur agricole, l'agenda approuvé à Kampala adopte une approche plus holistique des besoins du système agroalimentaire du continent. Une vision plus large, fondamentale, affirme Marc Bertin Gansonré, député et secrétaire général de la Confédération paysanne du Burkina Faso.
Il ne suffit pas seulement de produits, c'est aussi apporter une valeur ajoutée à cette production. Apporter de la connaissance aux agriculteurs pour qu'ils puissent utiliser les techniques et les technologies, travailler sur les infrastructures routières et travailler à accompagner le secteur industriel à se développer. C'est un grand chantier, mais on va se donner les moyens de réussir ce que nous allons commencer.
Parmi les objectifs de Malabo, l'affectation de 10% du budget de chaque pays à l'agriculture ou encore la réduction de moitié de la pauvreté d'ici 2025. Des objectifs très ambitieux, loin d'avoir été atteints par les États membres. Jérémy Lissouba, député congolais et secrétaire général du réseau parlementaire africain sur les systèmes alimentaires.
Nous constatons que très peu, si ce n'est aucun pays, n'a réellement réussi à allouer 10% de ses budgets nationaux. Notre vrai défi n'est pas un défi technique ou technologique, ni même financier. Notre vrai défi est un défi politique. Kampala doit être une décennie décisive. Relancer cette volonté politique.
D'ici 2035, la déclaration de Kampala vise notamment à réduire de moitié les pertes post-récolte, à tripler le commerce intra-africain de produits alimentaires ou encore à augmenter de 35% les aliments transformés localement. Donald Brown, vice-président du Fonds international de développement agricole.
Dans le monde de l'après-conférence de Malabo, il sera important de traduire les déclarations du niveau continental vers les organismes régionaux tels que la SADC et la CDAO, où les ministres des Finances seront mutuellement responsables des résultats obtenus.
La déclaration de Kampala réaffirme l'urgence de développer la capacité du continent à nourrir ses habitants pour 58% touchés par une forme modérée ou sévère d'insécurité alimentaire selon la FAO. Un enjeu d'autant plus important face aux prévisions sur la croissance démographique, estimant à 2,5 milliards la population africaine d'ici 2050. Lucie Mouillot, Kigali. RFI.
Afrique Économie, bientôt 8h, en temps universel, RFI Matin se termine avec notre choix musical. En musique que vous nous présentez ce matin. Bonjour Carmen Lunsman.
Bonjour Julien.
Si virtuose des cordes venues des quatre coins du monde s'accorde sur 11 titres pour voyager de l'Alaska à l'Inde en quelques coups d'archet, en passant notamment par les prairies du Far West. The Road With You, la route avec toi, c'est le nom du titre qu'on entend, et du quatrième album de Duplessis and the Violins of the World. Qui sont-ils, Carmen?
C'est un ensemble unique au monde, fondé il y a 15 ans par le guitariste français Mathias Duplessis. Féru de musique traditionnelle ici et ailleurs, ce globetrotteur a réuni des musiciens rencontrés sur sa route qui jouent toutes sortes de violons au nom imprononçable.
Le sarangi indien, le erhu chinois, le morinkhur mongol, le violon suédois qui s'appelle le nickel harpa, le violon tunisien de Ziad Zouari qui joue aussi bien oriental que jazz. Et moi, la guitare un peu voyageuse, guitare gitane, guitare classique, guitare blues.
Voyageuse qui a amené Mathias Duplessis jusqu'à la plage de Mumbai en Inde.
Oui, où il a travaillé pendant 8 ans en tant que compositeur de musique de film avant de se mettre au chant. Sorte de chant d'ailleurs. Et si jamais vous ne comprenez rien aux paroles, Julien, ne vous inquiétez surtout pas.
C'est un dialecte que j'ai inventé. C'est de la poésie pure, quoi.
Titre Tao's Waltz, la valse de Tao, où Mathias Duplessis semble s'aventurer jusqu'en Chine, Carmen.
Et il va encore plus loin en Mongolie pour nous ramener ce chant guttural impressionnant, Julien.
C'est une musique sans frontières que célèbrent Duplessis et les violons du monde.
Et dans cet album, il mêle influences pop, jazz, minimaliste et cinématographique. Et il s'inspire même de leur tournée.
On est allé dans des endroits hallucinants, comme par exemple l'île de Kodiak, tout en haut, en Alaska, une île de pêcheurs. On était entouré de phoques et de banquises. Et de pêcheurs avec des longues barbes et des grands bonnets en laine. Je trouve ça plus important de tourner dans des pays reculés, là où il n'y a pas beaucoup de culture, beaucoup de spectacles, plutôt que dans les grandes villes où il y a une pollution de musique.
Cet ensemble insolite et engagé va jusqu'à nous décrocher la lune dans ce titre.
Chacun est en tenue traditionnelle, représente son pays et sa culture et on essaye de communier ensemble. Comme dit Stevie Wonder, les musiciens sont les derniers soldats de l'amour.
Et les violons du monde en concert demain à Lyon et mercredi prochain le 29 janvier à Paris à la Cigale pour le 4e album du groupe The Road With You. Carmen Luntzmann, vous nous avez fait voyager, merci beaucoup.
Avec plaisir Julien.
Très bonne journée à vous et bonne journée à vous qui nous écoutez. RFI Matin se termine et je remercie Jean-Pierre Pellon à la réalisation. Dans 10 minutes vous avez rendez-vous avec Juan Gomez, bonjour Juan.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
Appel sur l'actualité au programme aujourd'hui.
Comme tous les jours, on commencera l'émission avec vos questions sur l'actualité et ce matin on nous interpelle sur la menace de Donald Trump d'augmenter les droits de douane sur les importations chinoises. Des questions également sur la première patiente en France potentiellement guérie du sida. Voilà donc un aperçu des 30 prochaines minutes. Julien, bonne journée.
Bonne journée.
Vous revenez demain évidemment pour nous informer, nous réveiller sur RFI. Dans moins de 2 minutes, le journal.
Le Centre Pompidou-Metz présente l'exposition « Après la fin, carte pour un autre avenir » du 25 janvier au 1er septembre. Au programme, 40 artistes internationaux autour de récits nouveaux et ancestraux, populaires et modernes, traversés par l'histoire coloniale et post-coloniale. Après la fin, carte pour un autre avenir à partir du 25 janvier. Plus d'informations sur centrepompidou-metz.fr. En partenariat avec RFI. Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Question de femme, la santé cardiaque au féminin, infarctus du myocarde, AVC, hypertension artérielle, un cardiologue répond aux questions des auditrices.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Afrique, mémoire d'un continent, avec Elgas.
Je vous emmène dans l'océan Indien pour vous raconter l'histoire d'une île Mayotte, celle d'un archipel les Comores, terre de sultans et de pirates, de rivalités impériales, de divorces entre frères, du 7e siècle à aujourd'hui, plongée dans l'histoire mouvementée du dernier département français, le premier en terres africaines.
Afrique, mémoire d'un continent, tous les dimanches à 8h10 TU sur RFI.